Bonjour, Grand Portage, avec Kevin Beaulé.
7h10, différents médias qui ont abordé le sujet dernièrement, notamment un reportage télé la semaine passée que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Donc, l'Alliance de l'énergie de l'Est, un projet de ligne à haute tension qui est étudié. Et il y a plein de questions qui viennent avec ça. Et ce matin, ben, qui de mieux placé pour répondre à ces questions-là que le président de cette alliance, Michel Lagacé, qui est en studio. Bon matin, M. Lagacé.
Bonjour, M. Beaulé.
Pour certains, ça a été une surprise d'apprendre que si jamais tous les projets éoliens qu'on a dans l'Est du Québec se réalisent, ben, on va peut-être avoir un problème avec le transport. J'ai toujours pensé que c'était un problème d'Hydro-Québec, que c'est Hydro-Québec qui avait le mandat, en quelque sorte, de construire ces lignes de transport, mais finalement, ça pourrait être un projet qui pourrait être mené, on va dire ça comme ça, par l'Alliance de l'Est.
Bien, essentiellement, on a M. Fitzgibbon, avant la période des Fêtes, le gouvernement a abrogé deux décrets, le 1300 MW en énergie renouvelable, le 1000 en éolien, puis il a dit à ce moment-là, il faut faire une cartographie de la capacité des lignes de transport, puis de la rapidité de faciliter les interconnexions entre les projets éoliens ou projets solaires développés, puis les lignes de transport. Et en même temps, il a dit, ce qui va s'en venir après, je dirais, un premier appel d'offres, on parle du 1500 à ce moment-ci, c'est l'identification des régions où il va y avoir l'acceptabilité sociale, des gisements éoliens de qualité, puis de voir de quelle façon on peut améliorer la capacité des lignes de transport pour aller chercher les électrons produits. Dans notre cas, nous, on attend avec beaucoup d'impatience, l'annonce des projets gagnants pour ce qui est des appels d'offres 2021.
Qui devait se faire d'ailleurs en décembre.
Trois mois plus tard, bientôt, là, comparativement aux précédentes annonces, il y a déjà un peu de retard par rapport à l'échéancier de réalisation. Mais dans le cas de la cartographie, elle va venir identifier qu'est-ce qui demeure sur les lignes de transport entre Rivière-du-Loup, parce qu'on parle souvent que Rivière-du-Loup est le goulot d'étranglement.
Ouais.
On comprend là, qu'avec les annonces qui vont se faire, ça se peut qu'il y ait encore moins de place sur les lignes de transport avec les projets gagnants qui vont être annoncés. Fait qu'on va avoir la cartographie, on va savoir quels sont les résiduels pour ce qui est des lignes de transport. Puis à ce moment-là, ben, je dirais, la responsabilité appartient à Hydro-Québec, ça c'est à l'évidence. Le gouvernement, puis le ministre de l'Énergie regarde actuellement à faire une mise à jour pour ce qui est des différents projets de loi qui concernent Hydro-Québec. Notamment, puis M. Pinault le disait cette semaine, le chercheur de la chaire de recherche, Pierre-Olivier Pinault,
ouais.
Qui disait, actuellement c'est pas possible, mais c'est le temps de repasser les cartes par rapport aux lignes de transport.
Est-ce que les délais qui se prolongent pour la décision, ça peut être en lien avec les questions sur le transport?
On n'a aucune idée, M. Beaulé. Je dirais que ça fait. C'est particulier, d'abord, qu'il y ait un retard aussi important. En 2014, il y avait 4000 MW en projet déposé pour 450 MW de possibilités. Cette fois-ci, il y en a 2000 pour l'équivalent d'environ. Uniquement en éolien, là, c'est l'équivalent de 1500 en éolien. Fait que c'est un peu incompréhensible qu'il y ait autant de retard sur les annonces. Est-ce que ça fait partie des analyses qui sont faites par Hydro-Québec? Je dirais que les murs ne se mettent pas. Donc, on ne le sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que M. Fitzgibbon a annoncé la semaine passée que l'énergie éolienne allait être quadruplée au Québec. 1500 qui est annoncé vendredi passé. Et dans notre cas, nous, on veut être présent pour ce qui est des prochains appels d'offres. Puis, au-delà du 1156 MW qu'on a déposé en projet pour l'appel d'offres 2021, on sait qu'il y a au moins 4 à 5 000 MW supplémentaires à exploiter parce qu'on a des discussions avec des partenaires privés pour l'Est du Québec, c'est-à-dire à partir de Montmagny, aller jusqu'à la pointe de la Gaspésie.
La question du gars qui ne connaît pas nécessairement ça, mais... On a des projets, mais si on ne peut pas transporter l'énergie qu'on produit vers les grands centres, à quoi bon y aller avec des projets? Donc, est-ce que la problématique du transport, ça pourrait venir nuire à la concrétisation des projets?
À l'évidence. C'est pour ça qu'on veut se positionner rapidement puis de dire à M. Fitzgibbon puis au gouvernement du Québec que dans le cas de l'Alliance de l'énergie de l'Est, nous sommes prêts. On a des gisements éoliens qui sont documentés, qui ont été identifiés, de grande qualité. Lorsqu'on regarde la carte des vents au Québec, ben ça se passe au Bas-Saint-Laurent, puis ça se passe aussi en Gaspésie, Montmagny-l'Île. Donc, on est vraiment sur une trajectoire très intéressante pour ce qui est de l'exploitation des gisements éoliens. Puis le principal frein qui pourrait effectivement y avoir sur l'exploitation des gisements, c'est les lignes de transport. Là-dessus, je dirais qu'on va avoir on a une complicité de la part de notre députée, Mme Dionne, Mme Blanchette Vézina, qui elle-même était la mairesse de Sainte-Luce il n'y a pas si longtemps, comprend très bien les avantages d'avoir des revenus éoliens indépendamment de la taxation foncière. Donc, on a l'appui de ces personnes-là là, sur le fait qu'on a des gisements et il faut regarder de quelle façon on peut rencontrer les attentes du gouvernement du Québec sur la production d'énergie éolienne.
Parce qu'on s'entend que c'est majeur. Là. Si on est obligé, avec l'Alliance, de construire une ligne de transport, de partir de la Gaspésie jusqu'à je ne sais pas trop où, ça serait quoi vers...
C'est la cartographie qui va venir identifier.
C'est des, centaines et des centaines de kilomètres de lignes qu'on va devoir construire.
Oui. Je dirais que vous savez, comme dans toute chose, quand tu construis, il y a un prix à payer, puis il y a un prix à rentabiliser. Un amortissement d'une ligne, ça se fait. Hydro-Québec le fait, le prévoit. Puis je dirais que dans notre cas, nous, on va souhaiter ardemment là, que Hydro-Québec assume pleinement cette responsabilité-là parce qu'ils ont la maîtrise d'œuvre, ils ont les connaissances, ils ont la capacité. Ils vont avoir besoin de notre support, je pense, en lien avec tout ce qui est de l'acceptabilité sociale par rapport à la passation d'augmentation de la capacité des lignes de transport. Mais advenant le cas que dans les prochains mois, il va y avoir des nouveaux projets de loi qui vont identifier peut-être des nouvelles façons de faire. Bien, dans notre cas, nous, on ne laissera pas passer la chose. Parce que, vous savez, pour exemple, un projet de 300 MW qui pourrait être annoncé, bien, c'est 700 millions en investissement. Ouais. Deux projets de 300 MW, bien, c'est 1,4 milliard en investissement. Fait que quand on parle de 5 000 MW disponibles à partir de Montmagny jusqu'à la pointe de la Gaspésie, bien, c'est beaucoup d'investissements pour nos communautés, puis en même temps, beaucoup de bénéfices pour nos communautés.
Est-ce que ça suscite de l'inquiétude pour les membres de l'Alliance? Parce que si jamais on est obligé de construire, je ne sais pas la façon de fonctionner, est-ce que ça sera loué à Hydro-Québec, la ligne de transport qu'on pourrait construire?
Bien, je dirais que toute chose est possible. Certainement que le prix du kilowatt serait majoré par rapport à l'infrastructure de la ligne de transport, comme Hydro-Québec fait. Quand il identifie les coûts liés au transport des électrons.
Parce qu'on ne veut pas nuire à la rentabilité du projet. Là.
Ben non, évidemment. Vous savez, dans les trois dernières années, là, il a été versé aux actionnaires de l'Alliance 13,5 millions par année. C'est l'équivalent, dans le cas de la MRC de Virdoux, c'est 900 000 $ par année qui a été versé dans les trois dernières années. Quand on regarde les perspectives, là, c'est-à-dire... le 1156 MW qu'on a déposé avec tous ceux qui pourraient arriver incessamment. Puis dans notre cas, nous, on est 50-50 dans la production éolienne. On a des ententes avec Hydro-Québec pour tiers-tiers-tiers parce qu'on a on a bien identifié qu'il pourrait y avoir des avantages certains à collaborer avec Hydro-Québec sur le développement de l'expertise qu'il souhaite acquérir. Fait que c'est clair que dans notre cas, nous, on ne veut pas abaisser les bénéfices. On veut s'assurer d'avoir davantage de bénéfices dans les prochaines années. Puis, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 300 000 actionnaires au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, un peu plus, mais mettons 340 350 000 quand on inclut Montmagny-l'Île. Donc, c'est des actionnaires qui voient des retours par rapport à l'investissement de façon très rapide.
Ça serait... la construction se ferait en parallèle avec la construction des nouveaux parcs éoliens?
Bien, je dirais que ça, il faut d'abord avoir la compétence. Là. Ouais. Donc, éventuellement, qu'il y ait des projets de loi qui puissent être modifiés. Si Hydro-Québec, je le répète, n'est pas prêt à assumer immédiatement à ce moment-ci ses responsabilités. Puis en même temps, bien, le gouvernement du Québec va lui-même identifier les régions. Là. Fait que c'est pour ça qu'on veut se positionner rapidement comme étant une région qui est intéressante pour le développement d'énergie éolienne. Puis je le répète, là, on est 4000 MW actuellement.
Ouais.
On va être à 16000 d'ici 2040. Donc, il faut se préparer. Puis dans notre cas, nous, je le répète, là, les promoteurs privés avec qui on discute actuellement, pour l'équivalent d'environ 5000 MW de Montmagny aller jusqu'à Gaspé, ben eux sont prêts à imaginer toute formule qui pourrait permettre la réalisation de ces projets-là.
Est-ce qu'on a l'impression d'être impliqué dans une course contre la montre?
Je dirais que on a de l'avance. Hein? Faut le savoir qu'au Bas-Saint-Laurent, parce qu'on s'est parlé avant, parce qu'on a décidé de se concerter avant, 70-75% des projets qui ont été déposés dans l'appel d'offres 2021, origine du Bas-Saint-Laurent puis de l'Alliance de l'Est avec Montmagny, Lillet, Gaspésie. Donc, c'est sûr qu'on a de l'avance. Cette avance-là, on ne souhaite pas la perdre. On souhaite la maintenir. Puis lorsqu'on regarde on voit les perspectives, les gisements éoliens, ils sont chez nous, de grande qualité. Les bénéfices sont aussi de très grande qualité. Fait qu'on veut vraiment se positionner comme étant un acteur incontournable auprès d'Hydro-Québec, du ministre de l'Énergie, puis du gouvernement du Québec. M. Legault vient ici... bientôt, dans les prochaines heures, on va certainement lui parler de cela.
Monsieur Lagacé, deux derniers sujets avant de vous laisser aller. Nom de la circonscription. Bon, on sait qu'une résolution a été prise, adoptée par la MRC dans les dernières semaines. Oui. La ville de Rivière-du-Loup qui a fait de même cette semaine. Est-ce qu'on est confiant de sauver les meubles dans ce dossier-là?
Bien, sauver les meubles, ça voudrait dire de maintenir les quatre circonscriptions, puis que le nom de la circonscription demeure Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça, je pense qu'on pourrait dire sauver les meubles. Actuellement, je dirais que c'est malheureux. Là. On est parti de 7 circonscriptions il y a de cela quelques années à 4. On nous en propose 3, éventuellement 2 dans 5 ans, 10 ans. Ça, c'est pas. Il faudra que le législateur s'y attaque. Mais le nom de la circonscription, il est clair qu'on ne peut pas faire fi de la présence du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et de la ville de Rivière-du-Loup. Quand on regarde la Côte-Sud, c'est reconnu. Côte-Sud, c'est Montmagny, Lillet, Kamouraska à l'Assemblée nationale. Donc, nous, on a suggéré Côte-Sud, Rivière-du-Loup, Catascomique, parce qu'il y a une présence autochtone dans notre région, puis on l'apprécie avec le Témiscouata. Donc, pour nous, la présence des 5 territoires de la MRC serait identifiée, puis en même temps, la présence de la Première Nation, Wolastoqkaw.
Il y en a plusieurs qui pensent que la décision est déjà prise, que peu importe les revendications qu'on va faire, peu importe la force de Bernard Généreux, les appuis qu'il a, il y en a plusieurs qui pensent que c'est des décisions qui sont déjà prises d'avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous êtes un éternel optimiste?
Dans mon cas, moi, je suis plutôt un éternel optimiste. Je dirais que ce qui est clair, c'est que la résolution qui a été adoptée par la MRC au comité administratif. Elle a été acheminée à M. Généreux, à tous les membres du comité parlementaire de la Chambre des communes sur la révision de la carte électorale. On l'a envoyé à M. Trudeau, aux autres chefs de parti à la Chambre des communes. Ça passe pas, ça passera pas, ça passera jamais si, encore une fois, les commissaires font la sourde oreille aux préoccupations des citoyens qui sont tout à fait légitimes. On avait 4 noms. Ce qu'on demande, c'est qu'il y en demeure 4.
Dernière question. Bon, SEMER, depuis le passage de M. Fitzgibbon, qu'est-ce qui s'est passé?
Le dossier chemine toujours fort bien avec les fonctionnaires au dossier. On a d'excellentes discussions pour faire cheminer le dossier puis arriver éventuellement à ce qu'on souhaite qu'il arrive. Dans le cas de M. Fitzgibbon, la semaine passée, j'étais avec lui au colloque de l'Association québécoise de producteurs d'énergie renouvelable, puis il parlait de l'importance du GNR si on voulait s'attaquer au bilan des gaz à effet de serre au Québec pour avoir un meilleur bilan d'ici 2037. Donc, c'est clair que dans son cas, il voit des opportunités. On y voit des opportunités intéressantes. Le premier mois de janvier cette année, un mois historique, là, 1600, un peu plus de 1600 tonnes de matières reçues. Traitées.
Avec l'aide de Québec, là, la ville de Québec, faut-il le mentionner?
Oui, évidemment, mais il avait déjà commencé en décembre. Ouais. Il nous a amené quelques tonnes. Donc, mais on est allé chercher des clients supplémentaires avec des matières supplémentaires. Puis on est content. Puis les citoyens contribuent encore mieux d'année en année. Fait que on est content. Il reste une étape, c'est celle de la liquéfaction. Puis je dirais que 2023 va être certainement la bonne année.
Oui, est-ce que vous avez un moment précis sur votre calendrier où vous souhaitez obtenir le gros chèque?
Non, je dirais que je vais laisser ça au gouvernement du Québec. L'annonce des gros chèques, c'est pas nous autres qui les font. Même si le 500 000, on le savait depuis quelques mois, c'est M. Fitzgibbon qui a fait l'annonce, puis on en était bien contents. Ça n'a jamais transpiré de la part du Conseil de la MRC, parce qu'on reconnaît que c'est au gouvernement de faire les annonces. Puis dans ce cas-là, je le répète, on travaille très bien avec les fonctionnaires au dossier. On a un appui intangible, je dirais, fort apprécié de la part d'Amélie Dionne. Puis, on comprend très bien que Mme Maïté Blanchette-Vézina, notre ministre régionale, est aussi bien au fait du dossier.
Est-ce que vous vivez un petit peu l'effervescence des Jeux du Québec?
Oui, mais je dirais que j'ai mis hâte en fin de semaine. C'est l'ouverture. Je vais aller voir, j'aime le ballon-ballet, fait que je vais aller voir le ballon-ballet au Témiscouata, mais il y a les finales le 7 décembre à l'aréna ici au centre Premier Tech. Puis je fais des remises de médailles le matin. Là, pour
le 7 mars, oui. Le 7 mars, 7 décembre, c'est passé.
Excusez, 7 mars. ça va trop
ça
vite.
Ça va vite.
Hein? je le fais là, pour les équipes féminines Bantam. Donc, très, très heureux. C'est une belle effervescence. Puis, je dirais que Rivière-du-Loup, ça fait longtemps que la MRC, la ville, est sur la map des intérêts des Québécois. C'est une excellente façon de rehausser le prestige du territoire et de la ville de Rivière-du-Loup.
Merci beaucoup, M. Lagacé.
Merci, M. Beaulé.
À une prochaine. Donc, Michel Lagacé, qui porte plusieurs chapeaux, portait notamment celui de président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.